Entretien du 20 octobre 1979. Maharaj. Initialement, il faut professer ce sens du je suis. Il faut adorer, congratuler, faire ami avec cette présence à je suis. Il vous faut devenir un avec elle. Et alors, doit spontanément poindre en vous, je ne suis pas ce je suis. Après avoir écouté mes paroles, si vous tenez absolument à faire quelque chose, que ce soit seulement ceci. Méditez. Méditez beaucoup sur la connaissance intime « je suis ».« Je suis » signifie uniquement l'ensemble de la manifestation et non pas le complexe psychosomatique corps-idée qui porte votre nom. Rejetez l'identification au corps-idée et stabilisez-vous simplement dans la prise de conscience « je suis », sans spécification. C'est l'étape initiale. Je suis cette conscience dynamique du manifesté. Mais sans le formuler en mots, même intérieurement. Visiteur. Pas même je suis cela ? Maharaj. Pas même je suis cela. Au début, si vous voulez, vous pouvez le dire au commencement. Mais quand on met un mot sur le je suis, quel qu'il soit, cela signifie simplement la connaissance individuelle de cet état. Celui qui écoute le mot est la connaissance « je suis sans forme ». Cramponnez-vous à cela, vivez cela. Le réel signifie l'état ultime et le premier. C'est l'état le plus ancien, primordial, éternel, absolu. Sur cela est apparu l'état illusoire, comme un revêtement, comme un nuage, comme une flétrissure. C'est à cette apparition qu'est liée la constatation « je suis ». Ces événements sont constants besoin d'aller et venir. Cet état illusoire étant apparu, il doit nécessairement disparaître, car il est relié au temps. Mais nous sommes émotionnellement attachés à cet état. Émotionnellement signifie la conviction d'être ce je suis. Donc, pour que se dissipe cet état illusoire lié au temps, il faut transcender cette connaissance émotionnelle « je suis ». Tant que ce nuage n'est pas dissipé, l'état primordial n'apparaîtra pas. L'état primordial n'est pas à conquérir. Il est déjà là. Il faut simplement éliminer ce qui fait écran. Je répète. Vous ressentez, vous éprouvez « je suis ». Mais cet état « je suis » doit être évacué, doit disparaître. Alors seulement, l'état primordial se révélera, car c'est sur lui que s'est formé cet état illusoire. Ni vous, ni moi ne sommes nés. Le principe qui est né comprend seulement trois stades : l'état de veille, l'état de sommeil profond et la connaissance « je suis ». Tant qu'ils seront là, vous serez identifié à cet état « je suis ». Tant que vous n'aurez pas atteint l'état primordial en vous dégageant de cet état illusoire, vous demeurerez empêtré dans ce temporaire qu'il faut transcender. Mon maître m'a ordonné de méditer sur Atman, sur ma véritable nature, sur la contemplation de « je suis », débarrassé de toute référence au corps et à l'intellect. Nous vivons enfermés dans l'idée que notre image correspond à celle de notre corps, que notre nom est seulement celui de notre corps. comment nous en délivrer? C'est sur ceux qui croient que sa réelle identité correspond au nom et à l'image du corps, c'est sur ce principe qu'il faut méditer. Quand vous fixez votre méditation sur cette conviction « je suis », quand vous vous plongez dans ce principe, cela correspond à la germination d'une graine. Quelle que soit la connaissance qu'il puisse posséder, le « je suis » vous la communique. Cela signifie que vous devenez cette connaissance et qu'au cours de ce processus, vous allez répudier cette connaissance. Cela signifie que vous transcendez ce principe, que vous découvrez que « moi, l'absolu, ne suis pas ce « je suis », cette conscience. Vous vous en dégagez. Nouvel état. Il vous faut de bonne foi vous accrocher à ce corps en tant qu'image de vous-même, honnêtement. Mais il s'agit d'une compréhension erronée, mensongère. Vous acceptez docilement l'idée d'être mâle ou femelle. Quand vous prendrez conscience que le corps n'est pas votre être véritable, cette image d'homme ou de femme se dissipera complètement. Pourquoi vous sentez-vous tellement détendu, satisfait, heureux en samadhi? Uniquement parce que cette conviction vous garantissant un corps, un sexe, se révèle fausse. Elle n'a plus aucune prise sur vous. Vous êtes débarrassé de ce boulet. Il fut un temps où vous vous connaissiez vous-même, où vous étiez conscient de ne pas expérimenter un état de veille et de sommeil. Vous n'aviez ni faim ni soif alors, ni compréhension de ces mots, ni nécessité de les employer. Ce « je suis » illusoire n'existe pas en l'absence de l'état de rêve et de sommeil. Et cela fait déjà partie de votre expérience, mais vous ne vous en souvenez pas. Un principe très précieux habite en vous, mais il a donné naissance à ce monde de la dualité. Ce sentiment du « je suis » est la matrice de l'illusion initiale. Il est pourtant baptisé de grands noms, l'être, racine de l'illusion. Qu'est-ce qu'une perle, objet de tant d'admiration et de convoitise? C'est un grain de sable s'étant introduit dans une huître. Mais on oublie le grain de sable, on ne voit que l'éclat nacré qui l'entoure. Qu'est-ce qui a créé l'univers? Ce grain de sable, ce principe « je suis ». Similairement, ce principe planté dans un corps est la racine, la graine de l'illusion primordiale. Quelle est cette graine? La graine du devenir, des événements prenant forme, du manifester. C'est la porte de l'illusion. De son seuil, le monde surgit. On peut également nommer cette graine l'état d'amour, l'état de désir. Dans chaque personne, ce principe intérieur est l'état d'attachement, d'amour. Après « j'aime », quelle est l'étape suivante? J'aime être. J'aime poursuivre mon existence. J'aime perpétuer mon état de présence. Moi est l'état d'avidité. La racine de l'illusion est donc cela. Je, J-E, être, moi, perpétuer mon existence. Voilà la graine. Visiteur. N'est-ce pas aussi « je veux » Maharaj. J'aime signifie « je veux être », le besoin d'être. Notre besoin le plus pressant à ce stade, c'est « je veux vivre », « je veux être ». En l'absence de « je désire », « j'aime », cet état de sommeil et de veille n'était pas. Il n'existait qu'un état parfait, complet, total, ne voulant rien. Avec la racine de l'illusion initiale, apparaît l'état d'amour, l'attachement, l'être-té. « je suis » en lui-même est un état d'attachement. Pour sublimer cet attachement, le remède est le jnana yoga, la pratique de la méditation, afin de transcender cet état de désir, ce « je suis ». Jnana veut dire connaissance élevée. Visiteur. Comment cet état se produit-il? Comment apparaît-il sur l'absolu? Maharaj. Spontanément, non demandé, non souhaité. Il y a un état au-delà de toute spéculation, de toute atteinte, et soudainement, ce besoin d'être apparaît sans raison. Prenez un médecin spécialiste très savant. D'un simple coup d'œil, il peut diagnostiquer les maladies. Ce médecin se réveille un matin, le corps gonflé à un point tel qu'il ne peut même plus ouvrir les yeux. Que lui est-il arrivé? Quelle en est la cause? Cela s'est produit tout d'un coup, c'est trop tard, c'est là. Vous ne pouvez attribuer cette illusion à aucune cause. Ce principe absolu, unique, libre, est soudain couplé à ce principe de connaissance « je suis ». Quelle en est la raison? Il n'y en a pas. En fait, vous êtes toujours cet absolu, un, complet, total, libre, non lié à quoi que ce soit. Mais malheureusement, on ne sait pourquoi, vous êtes aujourd'hui sous le joug du « je suis ». Vous êtes entièrement enveloppé dans ce principe qui vous donne l'impression de vous-même et des autres. Et vous aimez être vous-même, vous ne souhaitez pas vous débarrasser de ce principe. Même sur votre lit de mort, vieux et invalide, vous ne voulez pas perdre ce « je suis », vous vous y cramponnez. Le voilà l'état d'amour, l'attachement. Qui comprend qu'il est lié à cette conscience « je suis », à cette maladie? Actuellement, j'ai les pieds gonflés. Le principe, sachant que mes pieds sont gonflés, lui, n'est pas gonflé. Similairement, le principe, sachant que je suis actuellement couplé à cette connaissance « je suis ». Ce principe, c'est que « je suis » n'est pas le principe absolu. Visiteur. Vous avez employé plusieurs fois une expression que je ne suis pas sûre d'avoir comprise. À propos de ce désir d'être, est-ce bien d'amour dont vous avez parlé? Maharaj. Cet état lui-même, ce moi, est amour, besoin de posséder. Vous ne dites pas « je n'aime pas » ou « je ne suis rien ». Vous aimez être, vous aimez prolonger cette existence. C'est le besoin de prolonger le stade le plus grossier. Avant toute autre chose, je suis et je désire être. Visiteur. Lorsqu'on parvient à transcender ce désir d'être, est-ce qu'il revient encore? Maharaj. En fait, le principe absolu n'est nullement affecté par ce sens du je suis, cet être-té. En ce moment, ici même, vous n'en êtes nullement séparés. Le son initial « Om » correspond au gémissement de l'existence. Je suis en bonne santé, soudain je tombe malade et je commence à gémir. D'où vient ce gémissement? Il monte de ma souffrance, il est le signe de la maladie. Je l'appelle Rig Veda. Le Rig Veda est le premier Veda. L'hymne de l'origine. Similairement, Om est le son originel, le signe de l'imperfection. Je suis est le signe de la maladie. Avec l'apparition du je suis, l'état de veille, la maladie a pouvoir sur vous. Il vous pousse continuellement à faire une chose ou une autre parce que vous êtes imparfait. Il faut vous lever pour uriner, pour manger, pour vous procurer ceci ou cela. De l'état de complète relaxation de l'origine, vous vous retrouvez plongé dans cet état de veille, cet état malsain. Même si vous décidez de vous reposer et de vous détendre, cela ne sera pas possible. C'est l'illusion initiale. Elle possède tous ses noms éminents, tous ses titres, Yogmaya, Mahashweri. Il ne s'agit pourtant que du pouvoir de l'illusion. Cet état initial produit sa propre lumière, son propre rayonnement. Dès le réveil, l'autoluminosité se manifeste et vous percevez un espace. C'est votre lumière qui éclaire l'espace intérieur où apparaît l'espace extérieur. C'est donc bien votre rayonnement, votre lumière, qui se répand partout. C'est dans votre lumière qu'apparaît l'espace qui vous entoure. C'est grâce à votre lumière que cet espace est perçu. Comme le rayon du soleil est l'expression du soleil lui-même, votre monde ne peut pas exister en dehors de votre conscience. Il est l'expression de ce « je suis ». Ce monde est votre manifestation. Vous seul êtes. Le système solaire, le cosmos, tout cela peut être connu grâce au soleil. Pour vous, c'est la même chose. Tout cet espace, y compris le soleil, se manifeste grâce à ce « je suis », cette conscience. Cette conscience et la lumière solaire sont similaires. Elles jouent le même rôle, elles sont une. Nous vivons dans l'espace. Cet espace n'est qu'une seule entité. Et par quoi est-il révélé ? Par la lumière du soleil. Votre lumière intérieure est-elle différente ? Votre espace intérieur est-il différent ? Même cet état actuel qui est le vôtre, ce « je suis », ce monde manifesté, même cela ne connaît pas de mort. Vous êtes assailli par la peur de la mort à la suite de cette identification avec le corps uniquement. Visiteur, vous dites que cet état d'amour-attachement, ce « je suis », est un état maladif venu voiler l'état de perfection primordiale, toujours présent, immuable. Mais la conscience aussi demeure, elle est toujours là. Quelle est la différence ? Maharaj, quand vous observez quelque chose, assistez-vous à sa transformation en une chose nouvelle ou bien sa forme précédente est-elle d'abord entièrement détruite ? Prenez l'eau. Elle s'évapore, devient nuage, puis pluie, et le cycle recommence. Pour vous, elle a disparu quand elle est en fait devenue abondance de particules d'eau dans l'atmosphère. Lorsqu'il se produit une transformation, c'est seulement la forme précédente qui est annihilée, détruite. Vous avez la certitude d'être. Cette connaissance devient plus tard non-connaissance, ce qui est l'ultime prolongement de la connaissance. Comparons ceci à l'eau. Vous avez un récipient d'eau. Vous la voyez, vous la touchez. Elle s'évapore et il n'y a plus rien. Vous pensez probablement qu'elle est détruite. Mais il n'y a pas eu de mort, pas eu de destruction. L'eau n'est pas annihilée. Elle est devenue nuage, abondance, fertilité. Similairement, quand cette connaissance d'exister devient non-connaissance, elle se fond dans l'absolu. Cet être devient non-être, il n'est plus tangible. Mais cela ne signifie pas qu'on l'a tué ou détruit. Quand le « je suis » se dissout dans l'infini, ce qui était manifesté, perceptible, devient insensible, intangible. Inversement, dès qu'une trace de « je suis » commence à poindre, tout le cosmos soudain est là, et dès qu'il disparaît, tout s'efface, tout s'éteint. Pour approfondir cette compréhension, supposons maintenant que ce principe devenu intangible puisse avoir fin. Il satisfera sa faim en consommant sa faim. fin FIM, sans disposer de l'expérience d'un corps. C'est en consommant sa faim que l'on pourrait la satisfaire. Vous pouvez estimer qu'écouter mes paroles est un grand privilège. Vous pouvez vous sentir très honoré. Mais moi, je ne ressens rien. Mon je suis a obtenu cette forme par lui-même. Mon être véritable n'a aucune information sur ce je suis. Néanmoins, ce corps s'est formé. Je ne puis donc éprouver aucune fierté. Mais je vois qu'il n'en est pas de même pour vous. Votre état est exactement semblable au mien. Mais vous tirez un grand orgueil de ce complexe corps-esprit, ce je suis. Vous êtes-vous formé vous-même ? Avez-vous fabriqué ce corps ? Visiteur, je ne sais pas. Maharaj, vous êtes. Cette affirmation seule fait autorité. Voilà ce qui est le véritable je suis, ce qui ne meurt pas. Visiteur, qu'est-ce qui demeure après la mort ? Qu'est-ce qui subsiste après l'abandon du corps ? Maharaj, et qui dit que le corps est mort ? Que le corps est un cadavre ? Visiteur, nous allons tous mourir un jour. Maharaj, quel que soit votre savoir, la seule certitude que vous possédez en ce monde est « je vais mourir ». Visiteur, dans mon expérience actuelle, quand je vois une lumière en moi et que je suis réellement dressé face à l'univers, je le perçois comme parfait, en harmonie. Est-ce que cela correspond à la réalité ? Maharaj, si pendant 4 jours vous n'arrivez pas à dormir, vous sentirez-vous enclin à trouver ce monde parfait ? Visiteur, non. Maharaj, alors, pourquoi le percevez-vous comme parfait ? Visiteur, un moment particulier de cet univers peut représenter une douleur ou souffrance, mais en tant que tout, Dieu, principe, il m'apparaît comme complet et parfait. Maharaj, le moment particulier apporte souffrance à qui ? Supposons que vous fabriquiez la douleur, que vos concepts imaginent la douleur. Supposons que vous n'êtes plus conscient. Percevez-vous la douleur ? Visiteur, non. Maharaj, alors, quelle est la cause de la perception de la douleur ? La conscience. Et qui reconnaît la conscience ? Visiteur, est-ce que l'apparition du mouvement est aussi l'apparition de l'attachement ? Maharaj, oui. Et quel est l'attachement premier ? Être. Prolonger mon être-té. Visiteur, est-ce cet attachement qui en arrive à vouloir se découvrir lui-même ? Maharaj, je dois comprendre la cause de ce principe qui m'a fait perdre mon identité profonde, véritable. Comprendre comment j'ai identifié cela, ici, à ma véritable nature. Qu'est-ce ? Je dois le découvrir, le reconnaître et le dépasser. Visiteur. Ramana Maharshi dit dans un livre que le « je suis » est la cause de tous les problèmes et qu'il faut remonter en arrière, toujours en arrière pour le dissoudre. Et quand vous l'avez entièrement dissous, demeure le sens de ce que vous êtes réellement. Maharaj, il faut remonter ainsi en arrière, se retirer, s'amenuiser, ou alors comprendre ce qui s'est produit devant. Ce qui doit être compris est le principe même par lequel vous vous efforcez de comprendre. Cramponnez-vous à cela. Allumez la torche. Ne courez pas avec votre torche derrière l'obscurité. Dès que la torche est allumée, l'obscurité se dissipe. Vous n'avez pas à bouger. Visiteur. En Occident, nous nous efforçons de pénétrer de plus en plus profondément dans l'expérience, mais aux Indes, on s'en retire. Maharaj. Ce sont vos concepts qui vous poussent. Vous êtes complètement enveloppé de concepts. Je vous parle à partir d'un point libre de tout concept. Disposez-vous de l'expérience de votre naissance ? Vous n'aviez aucune notion d'existence. Ce sens du « je suis » a pris forme spontanément, sans intervention de votre part. Pourquoi en tirez-vous vanité ? Vous n'avez eu aucune possibilité de dire « non, je ne veux pas une forme masculine, je la veux féminine ». Avez-vous participé à la formation de ce corps ? Quand tout a été terminé, vous avez éprouvé ce « je suis ». Tout cela s'est produit de soi-même. Pourquoi en être si fier ? Quelqu'un a perdu connaissance et soudain il reprend connaissance. De même, la naissance s'est produite par cette apparition de la conscience. Visiteur. Nous sommes allés visiter Sarnath, près de Bénarès, et le gardien nous a dit que l'on gardait un troupeau de daims dans les ruines, parce qu'il est dit que Bouddha reviendra dans le corps d'un daim. C'est la cause de ma question. Celui qui s'est dégagé du « je suis », peut-il revenir dans le « je suis » ? Maharaj. Bouddha, l'absolu, se réincarnera dans le principe Bodhisattva. Visiteur. Nous sommes également allés à Katmandou, où un guide nous a montré une statue en nous disant « ceci est un Bodhisattva et l'on est un Bodhisattva avant de devenir un Bouddha ». Maharaj. Bodhi signifie la connaissance et sattva est l'essence produite par la nourriture. De sattva, de l'essence des aliments et du souffle, a surgi ce « je suis ». Dès qu'il y a un corps, il y a ce principe intérieur « connaissance, je suis ». En transcendant ce principe intérieur, vous devenez Bouddha. Méditez là-dessus, creusez, acharnez-vous continuellement sur ce que j'ai dit. Au cours de ce processus, vous réaliserez pleinement ce Bodhisattva, ce sens du « je suis ». Visiteur, précédemment, on vous a posé une question sur la réincarnation et vous avez répondu que cette question était absurde et le fait de l'ignorance. À présent, vous dites que le Bouddha peut se réincarner. Pourriez-vous nous éclairer là-dessus ? Maharaj. Comprenez-le ainsi. Regardez ce bâton d'encens. Il est sattva, vraie essence. De ce sattva, de cette essence, provient le parfum qui est la bodhi, c'est-à-dire la connaissance consciente. Je perçois ce parfum surgissant de la combustion de cette essence de nourriture ou essence de base. Donc, Bodhisattva, ce sens du « je suis », désigne ce principe qui, nous venons de l'expliquer, est double. Ce principe par lequel chaque être humain ou animal se connaît en tant que siège de « je suis », certitude d'être. Visiteur. Pour réaliser notre dimension d'absolu, il nous faut dépasser cette conviction d'être ici identifié à un corps, la transcender de manière à découvrir que nous sommes semblables à Dieu. Est-ce bien ce que vous voulez dire ? Maharaj. Pensez tout d'abord à qui formule ceci. Quand un enfant n'est pas sage, on lui fait peur. On lui dit que l'ogre va venir le manger. Pour l'idée de Dieu, c'est exactement la même chose. On dit au petit enfant qu'il y a un Dieu dans le ciel. Dieu est comme l'ogre. Vais-je aller demander à l'ogre de me protéger ? Avant que ce « je suis » soit apparu, avais-je jamais pensé à Dieu ? Avais-je une information, un fait concernant Dieu ? Si l'on me dit « vous êtes » et que je constate cette évidence « je suis », je ne peux pas le contester. Mais durant cette période consciente, tout ce qui surgit et est absorbé en tant que savoir est transitoire. Cela ne durera pas, vous êtes bien d'accord. Vous respirez, mais vous ne prétendez pas être propriétaire du souffle vital sous prétexte que vous l'utilisez. Il n'existe rien que vous puissiez revendiquer comme vous appartenant dans le monde manifesté. Absolument rien. Visiteur. Lorsque vous dites que cela est apparu sur l'être en tant qu'état, est-ce que cela signifie que la capacité ou le niveau de chacun est différent? Maharaj. Vous pouvez ressentir des niveaux différents d'être-té. Mais pensez aux innombrables vagues qui apparaissent sur l'océan ou au nombre de rayons provenant du soleil. Il n'y a aucune différence entre eux, ni grand ni petit, ni meilleur ni pire. C'est l'amour que vous éprouvez pour vous-même qui vous donne cette impression. Cette perception est individuelle. En fait, il n'existe aucune différence de qualité ou de quantité dans la manifestation considérée dans son ensemble. Visiteur. Cette manifestation n'est-elle pas un obstacle? Maharaj. C'est seulement un concept. Pardon, c'est seulement son concept qui barre le chemin. Visiteur. Voulez-vous dire que si nous supprimons les émotions qu'il suscite, nous arriverons à le franchir? Maharaj. Aucune douleur n'existe en ce monde en dehors de l'amour que vous éprouvez envers votre existence, envers votre être-té. Visiteur. Comment peut-on produire ce rappel de soi? Comment parvenir à me faire oublier cette identification? Maharaj. Vous vous rappelez de vous-même automatiquement. Il ne faut pas activement s'efforcer de se rappeler sa véritable nature. En fait, vous vous efforcez continuellement de ne pas oublier votre forme. Et c'est là l'origine de la douleur et du désespoir. Visiteur. Il faut nous efforcer d'être attentifs et ne pas nous souvenir de nous-mêmes. Maharaj. Rappelez-vous seulement ce « je suis ». Je, J-E, est cette passion que vous éprouvez pour vous-même et cette notion d'être qui est apparue sur vous. Cette connaissance est la cause racine de nombreuses émotions. Néanmoins, vous n'êtes pas le propriétaire de cet être-té, de ce savoir qui dit « je ». Vous ne pouvez pas en disposer. Les plus grandes incarnations, les plus grands génies ont dû eux aussi abandonner ce « je suis ». Tant que vous êtes ici, cette passion pour votre apparence est la source de toutes vos misères et cette identification prend sa naissance dans vos concepts. Visiteur. J'en ai tellement. Nous nous efforçons de les expliquer en une ignorance globale. Est-ce suffisant? Maharaj. Abandonnez les termes « je »,« je » et « moi » et essayez de reposer votre question. Visiteur. Il s'agit alors de quelque chose de mécanique qui relève du cerveau? Maharaj. Ce je que vous utilisez, mécanique relevant du cerveau, quoi que cela signifie pour vous, ce je, laissez-le tomber et essayez de me questionner. Je suis simplement attentif et ne suis même pas conscient de l'être, bien que ce ne soit que momentané. Maharaj. Quand ce « je » se déplace, ne l'associez pas à un aspect mécanique ou à quoi que ce soit. Ne soyez pas habile, n'effectuez aucune de vos acrobaties intellectuelles. Stabilisez-vous simplement dans ce « je ». Visiteur. Voulez-vous dire qu'il me faut arrêter mes pensées et me comporter comme un automate? Maharaj. Laissez vos pensées tranquilles. Vous êtes antérieur à vos pensées. Alors, comportez-vous en conséquence. Vous êtes le terrain où poussent ces pensées. Visiteur. Je dois donc me comporter comme un automate? Maharaj. N'usez pas votre intelligence à prévoir la manière dont vous vous comporterez. Faites-le. Placez-vous avant vos pensées. Si vous essayez de comprendre le sens de tout cela à travers votre identification à un corps et un intellect, vous allez vous noyer. Et jamais vous ne pourrez comprendre, jamais. Tout cela est au-delà des pensées, du cérébral. Cet être-té, qui a le sentiment d'être le corps, ne relève même pas de cette espèce physique. Elle est d'une qualité totalement différente. Si vous commencez à expliquer l'être au travers du corps et de l'intellect, vous vous plongez dans un tourbillon d'implications et de points de vue. Le seul moyen de sortir d'un tourbillon est de se placer au centre, là où il tourne sur lui-même, de plonger et d'en sortir. Il faut se dégager de ce tournoiement d'idées. Identifié au corps-intellect ou à la réflexion ou à la logique, cet être est inexplicable. Abandonnez ce niveau. Ce n'est qu'en surface que le tourbillon tournoie. Visiteur, est-ce que le discernement et l'état d'être conscient doivent être proportionnés? Je veux dire, est-ce que la compréhension doit être développée en proportion de l'être? Maharaj, vous prononcez, ouvrez les guillemets, le discernement et l'être, etc., fermez les guillemets. Celui qui dit cela était avant que ces mots ne se forment. Il est antérieur à l'apparition de cette pensée formulée ensuite en mots. Donc, installez-vous avant ce tourbillon corps-intellect. Visiteur. Ce qui signifie qu'il me faut accepter la situation telle qu'elle se présente sans faire aucun effort. Maharaj. Observez simplement ce qui arrive. L'identification au corps, aux idées, doit être absolument rejetée. Et celui qui observe cela est Atman, le soi. Visiteur. Est-ce que cela implique qu'il n'existe pas d'émotions positives, que les émotions sont toujours négatives? Maharaj. Qu'entendez-vous par positif et négatif? Depuis quand commencez-vous à ressentir ces émotions comme positives et négatives? Visiteur. Depuis que nous avons commencé à analyser les fonctions du domaine mental? Maharaj. Qui nomme cette chose mentale? Qui dit cela? Visiteur. Il faut s'efforcer d'aller au-delà des obstacles. Maharaj. Ce n'est pas au-delà, c'est en deçà de ce mental, antérieur. C'est découvrir que je suis est le point central de cette grande existence. Je ne me suis pas créé, je n'ai pas créé cette forme, je ne sais pas d'où elle vient. Si je dis que c'est Dieu, alors que je ne sais pas ce que je suis, comment puis-je concevoir celui qui a créé ce que je ne connais pas? D'abord, cette présence est apparue, et c'est le pivot, la base. Dès que je vois que cette sensation d'exister a surgi sans cause, je vois également qu'elle est à la racine de cette identification avec le corps et l'intellect. Comment puis-je prétendre qu'un Dieu existe et qu'il m'a créé quand je ne possède pas d'évidence suffisante de ma propre existence? Et même si l'on me dit que Dieu est le témoin de mon existence, il faut d'abord que je sois avant qu'il puisse m'observer. Visiteur, est-ce que le fait d'être antérieur au « je suis » produit un changement fondamental ou important, soit dans le corps, soit dans l'esprit? Maharaj, si vous êtes établi dans un état antérieur au « je suis », cet état n'est plus concerné par l'existence ou non du corps et de l'esprit. Visiteur. Ramana Maharshi affirme que le centre spirituel est une zone située à droite dans la poitrine. Comme vous parlez beaucoup de s'établir dans l'état antérieur où je suis, pourriez-vous nous éclairer à ce propos? Maharaj. J'ai rejeté ce corps physique et ce corps intellectuel comme des choses ne pouvant plus me procurer quoi que ce soit. Comprenez-le ainsi. Je fais un rêve dans lequel apparemment je me réveille. Je me crois donc en état de veille et je revendique un corps qui soit moi. Dans ce corps rêvé, où dois-je me localiser ? Dans la poitrine ? Ailleurs ? Comment puis-je m'orienter dans ce corps de rêve alors que je suis ici, dans mon lit ? Où est le lieu qui pourrait m'abriter ? Visiteur : nulle part. Maharaj : ce rêve a surgi de l'état de sommeil profond. L'état de veille et le corps surgissent aussi de l'état de sommeil profond. Je me suis levée ce matin à 5 heures. Avant, je dormais. C'est de ce sommeil qu'a surgi l'état de veille dans lequel je me trouve. Vous êtes bien d'accord ? Visiteur : oui. Maharaj : vous êtes pris dans un corps comme dans un tourbillon. En vous débattant, en accumulant des informations sur ce corps-intellect, vous développez sans aucun doute certains pouvoirs. Mais ils ne vous donneront jamais accès à la vérité. Ramana Maharshi n'a eu accès à la connaissance ultime qu'au travers d'un concept. Mais ayant compris, il a rejeté le concept, il a refusé ce « je suis ». Je absolu ne suis pas ce concept. Vous avez un esprit brillant. Si, au lieu de passer votre temps dans la voie spirituelle, vous aviez choisi la voie scientifique, vous auriez probablement obtenu déjà un prix Nobel. Tandis qu'ici, vous n'obtiendrez rien du tout. Au contraire, vous allez vous perdre vous-même. Ici, vous arriverez à la conclusion. Ouvrez les guillemets. Mais je ne suis pas. Fermez les guillemets. Avez-vous l'intention malgré tout de revenir ? Visiteur. Quand je m'observe, quelquefois j'arrive à demeurer le témoin de mes pensées. À d'autres moments, mon attention se porte sur les pensées elles-mêmes, mais alors, quelque chose me ramène au niveau témoin. Y a-t-il une chose distincte du témoin et de l'intellect capable de me ramener au témoin ? Quelle que soit cette troisième position stabilisante, cela ne peut être rien d'autre que vous-même. Notre existence n'est qu'un état temporaire, comme une journée, disons, de 5 heures du matin à minuit. Même si vous vivez 100 ans, cela ne fait que 365 jours de 19 heures de veille. La notion « je suis » n'est pas éternelle. Ce que vous vivez ne peut jamais être l'expérience de l'éternel. Si votre état présent se prolongeait éternellement, il n'aurait jamais été question de demander quoi que ce soit à quiconque. Donc, actuellement, ce que vous connaissez est le temporaire. Mais ce qui observe cela, le principe témoin de cela, est obligatoirement éternel. Vous venez ici. Vous y demeurez 2 heures. J'assiste à votre arrivée et à votre départ. Je suis le témoin de vos déplacements. Pourquoi ? Parce que je demeure ici, sans bouger. Identiquement, cette vie de 100 années est regardée par quelqu'un, par un principe qui est l'éternel. Vous pouvez prendre Allah, ou Jésus, ou Krishna, toutes ces entités ou personnalités ont été seulement temporaires. Ce principe qui observe ceci comme temporaire, qui le perçoit comme temporaire, sans besoin de consulter personne, ce principe est l'éternel. Visiteur, en tant qu'être, nous héritons certaines qualités de nos parents. Ce que vous venez de dire signifie-t-il qu'il n'y a pas d'héritage de l'essence, que nous ne sommes que le développement de la personnalité ? Maharaj, vous êtes né fils de quelqu'un. Vous hériterez de tout ce que cette personne donnera à la suite de cette naissance. Mais si vous êtes non-né, où est l'héritage ? Je suis un état de veille, de sommeil profond et de rêve. Pour avoir l'état de rêve, l'élément indispensable est le « je suis ». Cette qualité, vous informant « je suis », implique également la présence de l'état de veille et de sommeil profond. Ce « je suis » est le produit, le résultat de la combinaison de ces trois états temporaires. Il est donc forcément lui-même temporaire. Visiteur. Après la mort du corps intellect, est-ce que notre vraie nature se révèle à nous ? Maharaj, imaginons de l'eau qui s'est évaporée. Est-elle morte ? En s'évaporant, elle s'est étendue. Elle s'est manifestée dans l'espace. Visiteur, elle n'est pas morte, mais quelle est l'évolution qui la change, la transforme ? Maharaj, dans le royaume de l'illusion du « je suis » réside le changement. Et ce qu'il observe, est ce principe éternel, immuable, qui est vous-même. Le non manifesté regarde le manifesté, cette connaissance « je suis ». Et la connaissance « je suis » observe la manifestation qui est simplement elle-même l'ensemble de l'univers. Visiteur, dans cet exemple, la conscience est ce qui s'évapore, c'est bien cela ? Maharaj, en dernier ressort, c'est votre concept. Tout ceci est seulement concept. Je suis lui-même est un concept et tout ce que vous êtes est conceptuel. Mais vous, l'absolu, êtes sans concept, sans je suis. Et pour cette raison, éternellement là. Visiteur, voulez-vous dire qu'en vue de se maintenir en deçà des pensées, nos convictions ne devraient pas être acceptées comme matériaux nécessaires à ce travail ? Maharaj, il n'est pas question de rejeter ou détruire quoi que ce soit. Simplement, de comprendre ce qu'est cet état « je suis ». Percevoir que ce « je » est une illusion, qu'il est temporaire et que « je », l'absolu, ne suis pas cet état « je suis ». Visiteur, ce qui veut dire qu'il ne faudrait pas l'exprimer, que cet état ne devrait nous donner naissance à aucune émotion négative afin que nous conservions notre énergie pour nous-mêmes. Je veux dire que lorsqu'on a compris, il ne faudrait plus ensuite l'exprimer ? Maharaj, a-t-il jamais été question de l'exprimer en mots ? Vous avez faim. Vous savez que vous avez faim. Vous souhaitez trouver de la nourriture. Allez-vous continuer à répéter « j'ai faim » ou alors « votre faim est satisfaite » Allez-vous crier « je suis rassasié » Vous le savez. Quel besoin auriez-vous de l'exprimer ? À partir du moment où vous avez l'expérience, c'est terminé. L'expérimentateur n'est pas l'expérience. Je vous observe, mais je suis différent de vous. Je suis actuellement vivant. Ceci est mon expérience. Mais celui qui observe cet état « je suis vivant », lui, n'est pas un je. Il est éternel. Visiteur. Mais toutes nos expériences sont falsifiées. Maharaj. Pourquoi considérez-vous l'individu ? Considérez seulement la manifestation, la conscience. Tout ce qui est observé dans cet univers apparaît et disparaît. L'appelez-vous individualité ? Bombay n'est pas un individu, mais la manifestation. Visiteur. En dernière analyse, il n'y a pas de manifestation. Ai-je tort ? Maharaj. Attrapez la cause première. Quand cette cause première est comprise, c'est l'ultime, c'est la fin. Visiteur. Je suis gêné par ce que vous dites. On dirait qu'il y a ici une réalité et que dans le lointain émerge un quelque chose qui est le manifesté. Ce manifesté aurait une apparence de réalité en étant en fait illusoire. Mais une telle compréhension inclut la dualité. Il y a ici une chose appelée réelle, d'où surgit là-bas la manifestation dans une chose non réelle appelée corps humain. Maharaj. Celui qui fait cette analyse, arrivant à la conclusion « ceci est irréel », se doit, lui, d'être réel. Visiteur, se pourrait-il que nous exprimions toujours les effets alors que nous sommes les causes ? Maharaj, les effets ne peuvent avoir aucun effet sur vous. Vous êtes hors de portée de l'effet. Visiteur. Suis-je la cause ? Maharaj. Vous n'êtes même pas la cause, seulement ce qui connaît la cause. Visiteur. L'obstacle n'est-il pas cette sorte d'interprétation « je suis un effet » ? Maharaj. La compréhension de cet éveil au « je suis » à l'être-té est en elle-même un obstacle. Vous pensez « ceci est la réalité » quand il s'agit d'un état temporaire. Quand cela disparaît, vous dites « cela meurt ». C'est une illusion. Vous êtes ce qui connaît cela, vous n'en êtes pas la racine ou la cause. Visiteur. Vous avez fait une distinction précédemment entre illusion et manifestation. Je ne comprends pas la différence. Maharaj. Il y aura toujours des différences. Ce que j'ai pu dire hier changera aujourd'hui. Au niveau éternel, aucun changement ne peut se produire. Mais à ce niveau transitoire, vous êtes toujours occupé, affairé, provoquant ainsi continuellement de nouveaux changements. Au royaume de l'illusion, tout se déplace, tout est continuellement en état de flux. Sa racine est illusion. Visiteur, c'est le jeu que je joue ? Maharaj, exprimez-le comme vous voudrez. Visiteur, quand on joue un jeu, on joue le jeu de cette racine, n'est-ce pas ? Maharaj, bien sûr. Pouvez-vous, en vous agitant, vous procurer quelque chose qui demeurera éternellement avec vous ? Ce grain de s'énever, cette constatation « je suis », subsistera-t-elle éternellement ? Sur les injonctions de mon maître, j'ai eu à méditer sur « je suis » en tant que Adi Narayana, le suprême Narayana, le Dieu primordial. Mais ce faisant, je, J-E, est devenu absolu. Et je sais maintenant que ce Dieu primordial, Adi Narayana, ne peut se maintenir. Avant d'être initié par mon maître, j'avais la conviction que je disparaîtrais un jour, mais que ce Narayana, lui, se maintiendrait éternellement. Mais à la suite des paroles de mon maître, j'ai découvert que ma demeure est l'éternité, tandis que cet état de sainteté, ce Dieu, Adi Narayana, va disparaître. Dieu a une destinée liée au temps. Je ne suis pas subordonné au temps. Je constate que ce monde disparaîtra tandis que je subsisterai toujours. Celui qui prend conscience de cette vérité, de ce que représente réellement ce « je suis », est respecté et adoré par tous. Mais son existence à lui aussi est temporaire. Le nom éternel ne peut demeurer longtemps associé à l'éternel. Abandonnez le joug des formes et des pensées. Et pour le moment, ne dépendez que de votre être. Prenez conscience d'abord de « je suis », puis devenez le témoin du « je suis ». Et ce faisant, transcendez « je suis ». Visiteur, votre maître vous a dit de méditer sur la connaissance « je suis » ou simplement sur « je suis ». Il y a entre les deux une différence ? Maharaj. Méditez sur ce qui vous permet de savoir que vous êtes, ce qui vous permet de connaître le monde. Considérez ce principe vous donnant la certitude d'exister, ce principe par lequel vous connaissez et vous-même et le monde. Ne demandez pas sur quoi l'on médite. Soyez le thème même de votre méditation. Supposons qu'un gros industriel vous offre un poste payé 10 000 dollars par mois. Une fois sa proposition connue, allez-vous vous mettre à méditer dessus ou, à partir du moment où l'offre a été faite, la connaissez-vous une fois pour toutes ? Alors, lorsqu'il vous est dit « vous êtes ceci », est-il nécessaire de vous mettre à méditer là-dessus ? Visiteur, j'ai posé cette question parce que beaucoup de ceux qui ont lu le livre de Ramana Maharshi, par exemple, comprennent que l'on médite sur le fait qu'il y a un « je suis » et que le seul moyen d'atteindre la libération est un processus raisonné. Mais ma compréhension de ce que vous dites me pousse à croire qu'il suffit d'expérimenter l'être, vivre l'être-té de « je suis », être je suis en toutes circonstances, y être attentif presque au détriment de ce qui est en train de se passer. Tandis que, si vous voulez par le raisonnement découvrir l'inexistence de l'ego, comme le laissent entendre les traductions de Ramana Maharshi, vous passerez tout votre temps à raisonner sur une idée, au lieu que cette idée de la vivre, de l'incarner. Maharaj, quelle que soit la logique de ce que vous avez découvert dans les livres de Ramana Maharshi ou ailleurs, ce je suis, cette présence, est manifesté, et ce qui perçoit cette présence, ce qui est le témoin de cette présence, est la réalité, le suprême. Ce suprême n'est plus je suis, il est antérieur au je suis. Vous êtes dans cette immobilité, ce repos au-delà de toute expression. Avant que la notion je suis apparaisse, vous êtes. Vous appréhendez Ramana Maharshi en tant qu'individu et le considérez comme un être réalisé plein de sagesse. En ce qui me concerne, Ramana Maharshi est l'absolu. Vous le considérez comme un individu. C'est pour cela que vous lui attribuez la qualité d'un grand sage. Pour moi, il ne peut être rien d'autre que l'absolu. Visiteur. Vous avez déclaré que votre maître vous a dit que vous dissiperiez ce « je suis » après l'avoir reconnu et observé comme transitoire. Il semblerait qu'à la dissolution du corps seulement, il est possible de s'en débarrasser. Maharaj, quand nous abandonnerons ce corps, demeurera-t-il l'état de sommeil profond et l'état de veille? Connaîtrons-nous la faim et la soif? Et est-ce là le sort réservé seulement à certaines personnes? Visiteur, je ne sais pas. Maharaj, quand n'existait ni sommeil, ni veille, ni faim, ni soif, quels étaient vos besoins? Visiteur, je n'en avais aucun. Maharaj, supposons maintenant que le corps est inerte. Sommeil, veille, tout est parti. Va-t-il demeurer un principe associé à cela? Existera-t-il un principe quelconque ayant des besoins à satisfaire? Visiteur. Lorsqu'un sage, un éveillé, abandonne son corps, ou bien une personne ordinaire, il doit y avoir une grande différence. Maharaj. L'ignorant meurt avec une quantité de concepts. Il va aller au ciel, en enfer, etc. Comme il meurt accroché à ces concepts, ils peuvent acquérir une forme concrète. Dans ce monde d'ignorance, nous sommes liés par les traditions, les rituels, les conventions, les sciences, les idées. Au moment de la mort, l'ignorant est lié à ces concepts et il se produit ce qui est en concordance avec leur contenu. À l'entité ou au principe qui a découvert tout cela, qui a perçu que même le concept « je suis » est une illusion, rien ne peut arriver. Il a pris conscience de ce qu'était son être. Et il l'a transcendé. Fin de l'entretien.